Radio Okapi.
À la présentation du journal, Noé Laluzi Tukabambi.
Plusieurs familles vivent dehors à Kintambo. Après la démolition de leur maison par l'hôtel de ville de Kinshasa, ces familles disent avoir aussi tout perdu et ne savent où aller. Mais l'hôtel de ville précise que ce sont des constructions anarchiques qui ont été démolies pour récupérer des espaces de l'État spoliés par des particuliers. Exaction des miliciens de la Codeco et des Zaïre dans le territoire de Djougou en Ituri. En trois jours, deux cultivateurs ont été tués par balle par la Codeco à Mongualou. Et un jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé dans la nuit de lundi à Djaïba après avoir été torturé par Zaïre qui lui réclamait sa contribution hebdomadaire d'argent que ce groupe armé collecte auprès des habitants. Emmanuel Lampart est l'invité de ce journal. Le représentant pays de MSF en RDC demande plus de respect pour des travailleurs humanitaires et plus de protection des populations civiles dans les Kivu, où Médecins sans frontières reste proche des communautés malgré un contexte sécuritaire difficile. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Notez d'abord que la déclaration des principes signée par la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis est un pas dans la bonne direction. Affirmation du président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État congolais l'a dit en réponse à une question d'un journaliste ce mardi lors de la conférence de presse qu'il a animée avec son homologue de la Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko, en visite de travail à Kinshasa. Suivez le chef de l'État congolais dans cet extrait choisi par Blaise Makassi.
Alors à propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaitée. Imprimé dans mon pays et cet engagement je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité.
Sachez que la Guinée-Bissau et la RDC ont décidé de consolider leur coopération bilatérale et envisagent l'ouverture des représentations diplomatiques dans les deux pays. Lors du point de presse tenu à l'issue des échanges, le président bissau-guinéen a encouragé les efforts en cours pour un cessez-le-feu dans la partie est de la RDC, précisant que la question de désescalade de la violence dans les deux Kivu a été évoquée tout récemment avec Paul Kagame lors de son séjour à Kigali. Pour sa part, Félix Tshisekedi a rassuré son hôte d'une coopération qui devra profiter aux deux nations. Plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile, à la gare de Kintambo, ici à Kinshasa. Leurs habitations ont été démolies par l'hôtel de ville. Elles disent avoir aussi tout perdu et ne savent où aller. Selon le gouvernement provincial, cette opération de démolition de constructions anarchiques vise à récupérer des espaces de l'État spoliés par des particuliers. Fatih Chenda et Plantin Yambenga signent ce reportage.
La gare de Kintambo présente une nouvelle image près de 48 heures après les travaux de démolition des maisons amorcés par l'hôtel des villes. Des débris des habitations, mais aussi des biens jonchent les sols. Matelas, réfrigérateurs, réchauds, armoires, tout est perdu. Ces pères de famille, habitant les sites depuis plus de 20 ans, revient sur les scénarios qu'il a vécu les dimanches.
En arrivant vers chez moi là-bas, il y avait déjà un mur que l'ONATRA avait érigé, disant que c'est la fin de l'ONATRA. Mais le dimanche, subitement, ils sont venus, sans même nous avertir. Ils ont commencé à démolir par chez moi. J'ai tout perdu, même le véhicule est là. Je ne sais même pas le récupérer. À 19h, s'il vous plaît.
Cette jeune dame, âgée d'une vingtaine, trouvée sur les sites, essaye de récupérer quelques biens de la maison qui traînent encore sous les décombres.
Maintenant, là, nous sommes dehors. On passe la nuit à la Belle Étoile avec les Kuluna. Personne ne nous sécurise. On a volé presque tout.
Ces travaux ont aussi touché les activités commerciales de certains occupants qui disent détenir des documents de l'ONATRA.
Ils ont démoli ma maison. Les locataires me réclament leur garantie que je ne suis pas en mesure de verser. J'avais un restaurant, un lounge bar. Je dispose d'un numéro des registres de commerce.
Sachez que ces travaux de démolition ont été lancés en vue de réhabiliter les chemins de fer reliant la gare centrale à Kintambo. C'est dans les soucis de rendre fluide la circulation dans ces coins de la capitale.
Toujours à Kinshasa, une campagne d'appel au civisme et de chasse aux antivaleurs, principalement Le phénomène Kuluna est en cours depuis hier lundi. C'est une initiative du gouvernement provincial à travers la brigade spéciale de protection de l'environnement et du bien-être social. L'activité a commencé symboliquement avec la distribution des tracts au quartier 1 dans la commune d'Ndjili. Pour Mimi Bikela, responsable de cette brigade, je cite, « Tout le monde doit se sentir concerné et s'impliquer pour le civisme ». Elle explique ce qui est en train d'être fait à travers cette campagne dans ses propos sélectionnés par Babel Mpongo Massimango.
Cette brigade consiste à lutter contre les anti-valeurs. Qu'est-ce qu'on entend par anti-valeurs? C'est tout comportement d'incivisme que nous sommes en train de vivre en cette période. Les gens ont perdu de bonnes manières. Les gens n'ont plus de civisme. Et c'est ce qui est à la base de beaucoup de choses. Des kulunas, des embouteillages et de non-respect de loi. Alors, cette brigade, nous devons alors remettre les gens dans des lectures. Ça veut dire qu'on a des messages très importants à partager, tels que rappeler aux gens que l'hygiène est nécessaire pour tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Des messages comme stop à la pollution sonore, des messages comme respecter le loi, parce qu'il y a plusieurs lois qui ne sont pas respectées. Le code de la route, nous avons la responsabilité de rappeler aux gens des notions qui existent déjà pour qu'à la prochaine, quand on va interpeller une personne, qu'il ne puisse pas dire que je n'étais pas au courant. Aujourd'hui, là, tout le monde a transformé son avenir en garage, au marché, alors que le marché pirate rend la ville sale. La propreté de la ville n'est pas le problème seul de l'autorité de la ville, c'est tout le monde.
En Ituri, au moins 3 personnes sont mortes en l'espace de 3 jours à la suite des exactions des miliciens de la Codeco et de Zahir dans le territoire du Djougou. Selon des sources sécuritaires et coutumières locales, certaines de ces victimes ont été tuées par balles lors des incursions des combattants de la Codeco dans la région minière de Mongualou. Une personne est décédée, elle, des suites de ses blessures après avoir été torturée par des miliciens de Zahir à Djaïba. Plusieurs autres personnes ont été grièvement blessées par balles. Martial Kizabiamongo.
Plusieurs exactions des groupes armés locaux sont signalées depuis le week-end dans les territoires du Djougou. Selon des sources sécuritaires, le dernier cas remonte à ce mardi matin à Alouja. Des personnes qui se trouvaient dans leur champ ont été tuées par des éléments de la Codeco. Des sources coutumières rapportent que, dans la nuit de dimanche à lundi, un homme d'une vingtaine d'années est mort à Djaïba, après avoir été torturé et fouetté par des miliciens de Zahir. Son péché est de n'avoir pas donné sa contribution d'argent hebdomadaire récoltée auprès de la population par ces hommes armés. Lundi, à la scierie d'Abelkos, des autres personnes ont été grièvement blessées par balles tirées par la Codeco. Mais un jour avant, le dimanche 27 avril, un véhicule de transport en commun a essuyé des tirs en rafale de ces mêmes hors-la-loi à Masikini, sur la route nationale numéro 27. Ces derniers ont grièvement blessé par balle une personne et emporté une somme d'argent estimée à 100 000 francs congolais ainsi que 4 téléphones Android avant de se retirer. Dans la bourse, Bounia Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Toujours dans le territoire de Djougou, le chef de secteur de Walendu, Djati, demande à la population du village Boudou, qui avait fui les affrontements entre deux factions rivales de la Codeco, de regagner son milieu. Appel lancé hier lundi, après une tournée de sensibilisation à la paix et à la cohabitation pacifique le week-end dans les villages de Boudou et Lobou. Une activité menée conjointement avec son homologue du secteur de Walendu Piti. Justin Gouza, chef de secteur de Walendu, Djati, est joint par Sadiq Yaboubak.
Que les attaques puissent cesser, la population en déplacement puisse regagner leur milieu d'origine et que la circulation également soit effective entre les communautés, disons la cohabitation pacifique, et enfin les esprits de pardon doivent vraiment régner dans chaque communauté. Et nous sommes en train d'attirer l'attention de toute personne porteur d'armes, d'être animé de la culture de la paix, d'éviter tout comportement qui peut nuire, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Si nous disons l'extérieur, ça c'est le voisin aussi. En tout cas, à tous les niveaux, le calme doit régner. Il ne sert à rien de mettre mal à l'aise la population qui a tant souffert et qui a besoin vraiment d'accompagner leurs milieux respectifs sur le plan développement.
Pour rappel, le 20 avril dernier, deux factions de la Codeco se sont affrontées dans le village Boudou, faisant au moins 16 morts. Au Nord Kivu, retrait depuis ce mardi de la ville de Goma, des troupes de la SADC, la SAMI DRC. Un retrait qui s'effectue par voie terrestre via la frontière entre la RDC et le Rwanda, dite la Grande Barrière. La SAMI DRC, déployée au Nord Kivu depuis décembre 2023, en appui au FRDC dans la lutte contre les groupes armés dans l'est du pays, est restée bloquée à Goma au lendemain de la chute de cette ville fin janvier 2025. Jude Mister Bilanda.
SAMI RDC, cette force régionale de la SADC, est composée de militaires fournis par les armées de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. Environ 3 mois après la déconfiture aux côtés de leur hôte, l'armée congolaise, la SAMI RDC aurait pu quitter la RDC directement par l'aéroport de Goma. Un arrangement conclu avec la rébellion du M23, arrangement qui prévoyait que les États fournisseurs des troupes contribuent à la réhabilitation de l'aéroport de Goma. Ceci aurait permis à la force régionale de la SADC de sortir accompagnée de toute sa logistique. Cependant, l'attaque de la ville de Goma, survenue dans la nuit du 11 au 12 avril courant, a changé les cours des choses. La rébellion, soupçonnant une participation de la SAMI RDC à cette activité, a exigé le départ immédiat de cette force. Par ailleurs, le Rwanda aurait autorisé l'utilisation de son territoire pour permettre à cette force de gagner un pays de la partie orientale d'où les contingents partiraient vers leurs pays respectifs. Ainsi donc, ce mardi, la population de Goma a assisté au passage d'un long convoi transportant troupes et matériel de guerre vers la frontière. Une fois la frontière franchie, le convoi est encadré par une escorte de l'armée rwandaise, confirme nos sources.
Restons au Nord Kivu. Les localités de Bugamba 1 et Bugamba 2 dans le territoire de Nyiragongo, voisin de la ville de Goma, se vident de leurs habitants chaque jour qui passe. Des familles entières abandonnent leurs maisons et tentent de trouver des logements dans d'autres quartiers relativement sécurisés dans la ville de Goma. À la base, une montée de la criminalité dans la zone. Jangandu Kabongo.
Aujourd'hui, la partie nord du village Bugamba 1 est quasiment vide. La majorité de la population a été contrainte de trouver un autre endroit pour s'abriter. Un défenseur des droits humains nous confirme la situation, indiquant que sa propre sœur a dû abandonner son domicile à Bugamba 1 pour retourner sous le toit parental à Goma. De manière régulière, des individus munis d'armes opèrent allègrement la nuit passant de porte à porte. Les maisons sont totalement dépouillées, leurs occupants sérieusement malmenés. De plus, des personnes sont soit tuées ou blessés par balle ou à l'arme blanche lors des incursions. En dépit des coups de feu nourris toutes les nuits, aucune intervention n'est observée. Les habitants s'estiment abandonnés, affirment des témoins. Par ailleurs, les démunis s'organisent pour veiller la nuit à l'extérieur autour d'un feu. Malgré cette initiative, 2 morts ont été enregistrées dans la nuit de lundi à mardi. Une personne a été tuée par des bandits au quartier Mukondo 2, plus au nord de la localité Bugamba 1, et une autre, infirmière de son état, au quartier Ndosho dans la ville de Goma. Ndosho connaît les retombées du banditisme qui sévit dans les localités de Bugamba. Si, pour une frange de la population, il s'avère que la rébellion n'a pas le contrôle de la situation dans cette partie, des cadres de base indexent pour leur part des membres de quelques groupes armés qui rôderaient encore dans certains coins du territoire de Nyiragongo.
Pendant ce temps, au sud Kivu, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans tous les coins de la chefferie de Kaziba, dans le territoire de Walungu ce mardi. L'AFC 123 venue de Nyangezi via Mushini depuis le week-end attaque les positions FRDC appuyées par les Wazalendo. Des activités sont paralysées et la population traumatisée. La situation est aussi la même dans les territoires de Kabare et Kalehe. Les localités de Kabamba, Kacheke et les hauts plateaux de Kalehe sont secouées par des tirs d'armes lourdes et automatiques. L'aspect humanitaire demeure critique et les dégâts collatéraux sont énormes. Ronéline Tibonera.
Les écoles, les commerces et les travaux champêtres qui constituent les principales activités dans ces milieux ruraux sont complètement bloqués. Les habitants souffrent des faim dans leurs maisons où ils se cachent sous les lits et les autres dans la brousse. À partir de Kaziba, les rebelles progressent vers Minembwe dans le haut plateau des Fizi et les autres en direction de Luinja, siège de la principale société orifère Twangiza Mining. 2 bombes sont larguées partout sans tenir compte des milliers habités par la population. Les dégâts collatéraux sont énormes, témoignent nos sources sur place, même si elles ne sont pas encore en mesure de fournir les bilans. Dans la partie nord de la province, les territoires des Kalehe font aussi face à des poursuites des affrontements ces mardis. Les combats sont en cours depuis le matin à Bushaku entre l'AFC M23 contre la coalition Wazalendo. Les rebelles ne cessent de se renforcer en troupes, en armes et en munitions. La population désespérée s'interroge à quand les retombées de pourparlers de paix engagés entre le gouvernement de la République et les belligérants.
En plus bref, dans la province du Lualaba, la police a présenté le week-end dernier à Kolwezi un groupe de présumés bandits à main armée au ministre provincial de l'Intérieur. Parmi ces personnes, un commandant de la police accusé de collaborer avec ces présumés malfrats.
Actualité internationale.
Au moins 15 personnes ont été tuées hier lundi par des djihadistes affiliés à l'État islamique dans l'État de Borno au Nigeria. L'insurrection djihadiste a fait depuis 15 ans plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés dans cette région du pays.
L'invité.
Malgré le contexte sécuritaire difficile dans le Kivu, Médecins sans frontières MSF reste proche des communautés pour remplir sa mission médico-humanitaire. Propos du représentant pays de MSF en RDC, Emmanuel Lampart, exige plus de respect aux travailleurs humanitaires et plus de protection des populations civiles. Il est l'invité de Radio Okapi. Il est dans cet entretien avec Rosalie Zawadi. Suivez. Monsieur Emmanuel Lampart, bonjour.
Bonjour.
Vos équipes sur terrain au Nord Kivu sont témoins, mais aussi victimes des exactions commises par des porteurs d'armes. Pouvez-vous nous parler de ces exactions quotidiennes dans cette province?
Ici, il y a lieu avant tout de rappeler que le vendredi 18, encore une fois, nous avons perdu un collègue à l'hôpital général de référence de Massissi, tué chez lui, à domicile, à son retour de travail. Ça fait, depuis le début de l'année, le troisième collègue que nous perdons ainsi. Qu'à cela s'ajoute aussi ce que nous avons vu au courant du mois d'avril à Walikale, où lors de la prise de Walikale et aussi après, l'hôpital a souffert des impacts de drones très proches. Également la base logistique et plusieurs véhicules qui assurent le transport des malades étaient touchés.
Sur terrain, vous assistez à différents types d'exactions. Il vous arrive de monitorer aussi ces différents cas?
Oui, bien évidemment, bien que ce n'est pas le rôle principal des Médecins sans frontières, mais témoin des conséquences du conflit armé, nous avons effectivement le devoir d'en témoigner. Non seulement il s'agit des structures médicales, mais aussi la sécurité de ceux qui, en l'occurrence, retournent vers les territoires. Je crois que leurs différents droits, et notamment le droit à l'accès aux soins, le droit à la vie tout court, le droit à la dignité humaine, doit être assuré.
Quelles sont aujourd'hui les actions de MSF en faveur des populations victimes des guerres au Nord Kivu?
Les Médecins sans frontières sont présents dans le Nord Kivu depuis plusieurs années. Quand on cite les projets de Walikale, on soutient l'hôpital général de référence, plusieurs centres de santé, également Massissi et Mouesso, les deux zones de santé dans le territoire de Massissi, cela fait plus de 15 ans. Ajoutons à cela notre présence auprès de certains services hospitaliers à Rutshuru, également à Kibirizi, Bambo. Voyez là un peu l'empreinte médico-opérationnelle qui est présente bien avant cet énième épisode et cette fois-ci sans précédent qui touche la population, les besoins les plus pressants de la population. Aujourd'hui, avec la non-opérationnalité du programme élargi de vaccination, malheureusement, la rougeole frappe, l'insécurité alimentaire donne des cas de malnutrition. Et bien évidemment, en proximité avec le lac et la ville de Goma, la même chose vaut aussi pour la ville de Bukavu.
Quel message avez-vous aux porteurs d'armes pour une bonne protection des populations civiles, mais également les travailleurs humanitaires?
Mais je crois qu'il va de soi que la protection de la population civile, le respect pour le corps médical et tout ce qui a trait au droit humanitaire international doit être assuré. Ce que les Médecins sans frontières viennent de témoigner, la perte d'un troisième collègue, c'est sans équivoque. Cela doit cesser. Ceci était intolérable. Et cela témoigne encore une fois, comme nous l'avons évoqué, que non seulement témoin des violences, de certains climats oppressants, mais surtout d'une violence qui nous touche dans la mission médico-humanitaire.
À part la sécurité, à quels autres défis vos équipes font face sur terrain au Nord Kivu?
Je crois aujourd'hui dans le Kivu, il y a toute la difficulté, zone contrôlée, gouvernée par le gouvernement central, ou en tout cas ses représentants, zone contrôlée, gouvernée, ou en tout cas avec la mise en place d'une administration propre, tant à Goma, tant dans le sud Kivu et dans les territoires dites contrôlés. Cela, pour le moment, manque une clarté de part et d'autres. Ça ajoute des barrières à la mise en œuvre de la mission médico-humanitaire. Cela ajoute des barrières à garantir l'accès aux soins avec efficience. Je crois les cadres qui sont là et qui engagent notamment les Médecins sans frontières en République démocratique du Congo nous engagent. Et c'est ça le cadre dans lequel davantage nous souhaitons toujours rester à côté de la population et des bénéficiaires.
Monsieur Emmanuel Lampard, merci.
Merci à vous, madame.
Merci à vous tous qui avez bien voulu suivre ce journal, chers auditeurs de Radio Okapi, un journal mis en onde par Debsé Vita, coordonné par Jude Mister Bilanda, sous la supervision de Pélé Kipela.